2. À propos de l'herbe à pipe. Il est un autre fait étonnant dont il faut parler concernant les hobbits de jadis. Une habitude surprenante. Ils absorbaient ou inhalaient, à l'aide de pipes en terre ou en bois, la fumée produite par la combustion des feuilles d'une plante qu'ils nommaient feuille ou herbe à pipe, probablement une variété du genre Nicotiana. L'origine de cette étrange coutume, cet art, comme les hobbits préféraient l'appeler, est entouré d'un épais mystère. Tout ce qui a pu être découvert à ce sujet dans l'Antiquité a été colligé par Meriadoc Brandybuck, futur maître du pays de Buck. Et comme lui-même et le tabac du quartier sud doivent tous deux jouer un rôle dans l'histoire qui va suivre, on peut citer ici les remarques qu'il a consignées dans l'introduction de son herbier du comté. « Cet art, écrit-il, est certainement celui que nous pouvons revendiquer comme étant de notre invention. » Nul ne sait quand les hobbits ont commencé à fumer. Toutes les légendes et les histoires familiales le tiennent pour acquis. De tout temps, les gens du comté ont fumé diverses herbes, certaines plus âcres, d'autres plus douces. Mais toutes les sources s'accordent pour dire que Tobold Suncornet, de Faudrolon, dans le quartier sud, fut le premier à cultiver la véritable herbe à pipe dans ses jardins au temps d'Isengrin II, vers l'an 1070, du compute du comté. La meilleure du pays provient encore de cette région, en particulier les variétés que l'on nomme aujourd'hui feuilles de Faudrolon, vieux Toby et étoile du sud. Comment le vieux Toby a découvert cette plante, personne n'en sut jamais rien, car il refusa d'en parler jusqu'à son dernier souffle. Il connaissait parfaitement les herbes, mais ce n'était pas un grand voyageur. On dit que dans sa jeunesse, il se rendait souvent à Brie, le plus loin qu'il soit jamais allé en dehors du comté, à n'en pas douter. Il est donc tout à fait possible qu'il ait eu connaissance de cette plante à Brie, où elle pousse abondamment sur les pentes méridionales de la colline, en tout cas de nos jours. Les hobbits de Brie prétendent avoir été les tout premiers fumeurs de l'herbe à pipe. Ils prétendent, bien entendu, avoir tout fait avant les gens du comté, qu'ils qualifient de colons. Mais dans ce cas précis, leur prétention a selon moi toutes les chances d'être fondée. Et il ne fait aucun doute que c'est à partir de Brie que l'art de fumer l'herbe authentique s'est répandu au cours des derniers siècles, notamment chez les nains et les autres gens, coureurs, magiciens ou vagabonds, qui empruntaient encore cet ancien carrefour. Le foyer de cet art se trouve donc à la vieille auberge de Brie, le Poney Fringant, tenu depuis toujours par la famille Fleur de Beurre. Il reste que, comme j'ai pu le constater au cours de mes nombreux voyages dans le sud, l'herbe en tant que telle ne semble pas indigène à nos régions, mais elle aurait gagné le nord depuis l'Anduin inférieur, où elle a selon moi été apportée d'au-delà de la mer par les hommes de l'Occidental. Elle pousse abondamment au Gondor, et elle y est plus grande et plus luxuriante que dans le nord, où elle ne se trouve pas à l'état sauvage et ne s'épanouit que dans des endroits chauds et abrités, comme Faudrolon. Les hommes du Gondor l'appellent Galenas douce et ne l'apprécient que pour le parfum de ses fleurs. De ce pays, elle a dû être disséminée le long du chemin vert au cours des nombreux siècles qui se sont écoulés entre la venue d'Elendil et notre ère. Mais même les Dúnedain du Gondor nous accordent ce mérite. Les hobbits furent les premiers à la mettre dans des pipes. Pas même les magiciens n'y pensèrent avant nous. Bien que j'en ai connu un qui, ayant adopté cet art il y a longtemps, y devint aussi habile qu'en toute autre chose auquel il s'appliquait. 3. De l'ordonnancement du comté. Le comté était divisé en 4 districts. Les quartiers précédemment mentionnés, nord, sud, est et ouest. Et eux-mêmes en un certain nombre de domaines ancestraux qui portaient encore les noms d'anciennes familles influentes, même si au temps de cette histoire, ces noms n'étaient plus désormais confinés à leurs domaines respectifs. Presque tous les Touques vivaient encore dans le pays de Touques, ce qui n'était pas le cas de bien d'autres familles, telles les Bessac ou les Boffines. À l'extérieur des quartiers se trouvaient les marches orientales et occidentales, le pays de Buck et la marche de l'Ouest rattachée au comté en 1452 CC. Le comté, à cette époque, n'avait pour ainsi dire aucun gouvernement. Le plus souvent, les familles géraient leurs propres affaires. Produire leur nourriture et la consommer occupait le plus clair de leur temps. Pour le reste, ils avaient coutume d'être généreux et non pas cupides, mais mesurés et contents de leur sort, de sorte que les terres, les fermes, les ateliers et les petits métiers avaient tendance à demeurer inchangés pendant des générations. Ils conservaient bien entendu cette tradition ancienne concernant le grand roi de Fornost, ou Norferté comme ils l'appelaient, loin au nord du comté. Mais cela faisait plus de 1000 ans qu'il n'y avait plus de roi, et même les ruines de Norferté-les-Rois étaient couvertes d'herbes. Pourtant, on avait encore coutume de dire des hommes sauvages et des créatures mauvaises, comme les trolls, qui n'avaient jamais entendu parler du roi. Car les hobbits attribuaient toutes leurs lois essentielles au roi de jadis. Et d'ordinaire, ils les observaient de plein gré, car c'étaient les règles, comme ils disaient, aussi anciennes que justes. Il est vrai que la famille Took avait longtemps été prééminente, car la fonction de Tain leur était échue, des vieilles boucs, quelques siècles auparavant, et depuis le Took en chef avait toujours porté ce titre. Le Tain était à la tête des comices du comté et capitaine du rassemblement du comté et de la hobbiterie en armes. Mais comme le rassemblement et les comices n'étaient tenus qu'en situation d'urgence, ce qui n'arrivait plus jamais, la Tainté avait cessé d'être autre chose qu'une simple dignité nominale. La famille Took avait encore droit cependant à un respect tout particulier, car elle demeurait à la fois nombreuse et extrêmement riche et susceptible de produire, génération après génération, des caractères forts aux habitudes singulières et même un tempérament aventureux. Ces qualités, bien qu'encore tolérées chez les riches, n'étaient guère approuvées du plus grand nombre. Quant au chef de famille, on continuait à l'appeler « le Took », comme c'était la coutume, tout en ajoutant à son nom un nombre si nécessaire, comme pour Isengrin II, par exemple. Le seul véritable dignitaire en ce temps-là dans le comté était le maire de Grande-Creusée, ou du comté proprement dit, élu tous les 7 ans à la foire libre qui se tenait sur les côtes blanches au temps du Lit, c'est-à-dire à la mi-été. En tant que maire, sa seule responsabilité, ou presque, était de présider les banquets donnés lors des jours fériés, lesquels étaient plutôt fréquents dans le comté. Mais les fonctions de maître de poste et de premier connétable se rattachaient au titre de maire. Ainsi lui revenait-il d'administrer le service de messagerie de même que la garde. C'étaient là les seuls services du comté, les messagers étant les plus nombreux et de loin les plus occupés. Les hobbits n'étaient pas tous des gens lettrés, au contraire, mais ceux qui l'étaient écrivaient continuellement à tous leurs amis et à certains de leurs parents, qui vivaient à plus d'un après-midi de marche. Connétable était le nom que les hobbits donnaient à leurs policiers, ou ceux qui s'en approchaient le plus. Ces agents ne portaient bien sûr aucun uniforme, une telle chose étant parfaitement inconnue. Seulement une plume à leur casquette. Et en réalité, il s'agissait davantage de gardes ruraux que de policiers, plus préoccupés des bêtes égarées que des gens. Il n'y en avait que 12 dans tout le comté, 3 par quartier, pour s'occuper de l'intérieur. Un corps nettement plus important, de taille variable, servait à battre les frontières, afin de s'assurer que les gens de l'extérieur, quels qu'ils soient, grands ou petits, ne venaient embêter personne. Au moment où commence cette histoire, les gardes frontières, comme on les appelait, étaient beaucoup plus nombreux que d'ordinaire. Bien des rumeurs et des plaintes faisaient état de personnes et de créatures étranges qui rôdaient le long des frontières ou qui les traversaient. Un premier signe que les choses n'étaient pas telles qu'elles auraient dû être et l'avaient toujours été, hormis dans les contes et les légendes d'il y a fort longtemps. Bien peu de gens en tinrent compte, et pas même Bilbo n'avait encore idée de ce que cela laissait présager. 60 ans s'étaient écoulés depuis qu'il avait entrepris son remarquable voyage, et il était vieux, même pour les hobbits, qui vivaient facilement jusqu'à 100 ans. Mais il lui restait encore une partie des richesses considérables qu'il avait rapportées, de toute évidence. Combien au juste, il ne le confia à personne, pas même à Frodo, son neveu préféré. Et il gardait encore secret l'anneau qu'il avait trouvé.